Moi j'aime bien voyager, voyager intelligent. J'apprends les langues des contrées pour parler avec les gens. Hey.
Itinérance, une déambulation proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Pour parler avec les gens.
Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène en Cévennes et plus précisément à Durfort pour voir la vedette du Fortoise, c'est-à-dire le mammouth de Durfort. L'inauguration de sa restauration est très récente, le mardi 27 juin au Muséum de Paris, au Jardin des Plantes. Et Adeline Rouilly, vous y étiez.
Et oui, oui, j'avais eu la chance d'être invitée par le Muséum de Paris. Et donc, c'était l'occasion d'aller saluer une nouvelle fois notre star du Gard et notre ambassadeur, en fait, du Gard à Paris.
Tout neuf, tout beau, tout reconstitué, magnifique et très impressionnant.
Très impressionnant, parce qu'on le voit entouré de mammouths primigenius, qui sont les mammouths laineux qu'on connaît plus habituellement. Et notre mammouth du Gard, c'est un mammouth, un mammutus meridionalis, en fait, donc un mammouth du sud, et qui pouvait faire jusqu'à 5 mètres au garrot. Donc, il est colossal.
Ouais. Oui, c'est impressionnant. Moi, je l'ai vu il y a longtemps avant sa restauration, mais c'est vrai que vous restez un peu ébahi et tout est relatif hein, quand on est face à,
c'est
ce,
ça, exactement.
À ce géant. Alors, j'ai oublié de dire, Adeline, que vous étiez la directrice du Muséum d'Histoire Naturelle. On vous a rencontré il y a très, très peu de temps pour les 30 ans du Carré d'art, l'art contemporain au Muséum d'Histoire Naturelle et également pour l'exposition Louis Pasteur à la salle Jules Salle. Donc, le Muséum d'Histoire Naturelle est en vedette. Hein.
Oui, mais en ce moment. Et puis, on avait fait, nous aussi, une exposition sur les mammouths, il y a une dizaine d'années à peu près, qu'on avait appelé Gare aux mammouths, et qui nous avait permis de présenter nos restes fossiles de mammouths.
Alors là, dans la Gazette, il y a eu une page entière sur la star gardoise du Muséum de Paris. Je rappelle que le Muséum de Nîmes est le 6e Muséum d'Histoire Naturelle, et que vous êtes en bonne place avec une autre personne, Elisabeth Vauclard, qui est du Fortoise et qui est une
habituée du muséum,
une spécialiste
aussi, et qui s'est vraiment intéressée de très près au mammouth de Durfort et du coup qui a pu travailler aussi avec l'équipe du Muséum de Paris qui est venue à Durfort refaire des recherches sur le terrain. Et donc oui, c'est une personne incontournable sur le mammouth.
Et au Muséum de Nîmes, vous avez quoi?
Alors, au Muséum de Nîmes, on a des dents de mammouth, on a des dents de mastodonte aussi, on a un pied de mammouth meridionalis, on a plusieurs éléments, voilà. Et du coup, ça nous permet de mettre en avant ces mammouths qui étaient très présents dans le Gard. Et on a aussi la collection d'André Bonnet, qui est décédé il y a à peu près une petite dizaine d'années et qui a fait don de ses collections aussi au Muséum de Nîmes. Lui, il était aussi paléontologue amateur et il s'intéressait de très près au mammouth de Durfort, puisqu'il avait même poussé le vice jusqu'à racheter un terrain à côté de là où avait été trouvé le mammouth de Durfort en 1869. Et donc lui, jusqu'à l'âge de 92 ans, 95 ans, a creusé ce terrain pour essayer de trouver un mammouth. Et il me disait, si j'en trouve un deuxième, je vous l'apporterai au Muséum de Nîmes.
Mais il n'a pas
donc
trouvé.
Donc pour l'instant, non, il n'a pas été trouvé. Mais ça a quand même permis sur ce terrain de faire des nouvelles recherches au Muséum de Paris et de pouvoir mieux dater le mammouth, en fait.
Alors comment a été trouvé ce mammouth? On ne lui a pas donné de nom. La girafe, à l'entrée, on lui a donné un nom. Mais
oui,
ce mammouth,
mais
on ne lui a
coup,
pas donné un nom.
Ça lui permet de conserver son berceau de naissance, en fait. Il a beau être à Paris, on sait que c'est le mammouth de Durfort.
Ouais.
Donc, comme ça lui donne une marque aussi gardoise, c'est pas plus mal.
Peut-être que beaucoup de gens ne savent pas où est Durfort, tout de même.
Voilà, donc c'est l'occasion de découvrir et d'être vraiment au plus proche de son lieu de décès, en fait. Hein. Il est mort dans un espèce de gour, un ancien marécage, en fait, et on l'a retrouvé assis. Donc, il a essayé de sortir tant qu'il a pu. Et comme il était vraiment géant et très lourd, il n'a pas pu.
Il s'est embourbé,
voilà, exactement. Ouais, ouais.
Alors, vous disiez, on a trouvé par hasard ce mammouth ou après une recherche systématique?
Deux chercheurs qui étaient Paul Casalis de Fondousse et Olivier de Marichard, qui étaient donc deux personnes qui s'intéressaient aussi beaucoup à tout ce qui était recherche préhistorique, recherche paléontologique, et qui faisaient des fouilles dans la grotte des morts qui était près de Durfort aussi. Et donc, Paul Casalis de Fondousse, on lui a dit qu'il y avait des choses un peu étranges près d'un... au bord de la route, en fait. Il s'est approché, il a regardé, et les cantonniers qui étaient là disaient que c'était des anciens tuyaux. Et en fait, lui, il a dit non, je pense que ce sont des défenses de mammouth. Et donc, à partir de là, les recherches ont pu commencer.
Oui, c'est vrai que dans tout ce qui est fouille, il faut penser à tous ces gens qui fouillent, je dirais, vraiment matériellement. Et il faut savoir reconnaître la petite chose. Je pense qu'il y a l'exposition Ramsès II. Et quand on voit justement toutes les vidéos, sur tous les documentaires sur les fouilles, voir qu'un petit morceau, c'est une poterie qui permettra de dater.
Ou de... C'est fabuleux. Puis on a trouvé des ossements aussi d'autres espèces. Donc, ça permet de recontextualiser ce mammouth, la présence d'autres animaux, de pouvoir dater aussi. On pense qu'il y a entre 1 million et 800 000 ans. Donc, c'est quand même énorme aussi en date.
800 000 ans,
et là, en trouvant d'autres éléments autour, que ce soit botanique ou animal, on pourra mieux déterminer. Ouais.
Ce qui explique sa taille énorme.
Oui, il était immense et puis il était tout nu, ce mammouth. C'est-à-dire qu'il avait simplement des poils sur le torse. Donc, il était vraiment un mammouth du sud. Et du coup, il n'avait pas toute cette toison.
Oui. Ouais. Oui, je me souviens d'un documentaire sur le petit mammouth. Je ne sais pas si on dit le mammouth de Sibérie. On l'avait retrouvé congelé. Lui, il avait beaucoup
lui,
de poils.
Oui, lui, il avait sa toison.
Donc là,
c'était un primigenius, lui. Ouais. Voilà, un mammouth, les nœuds qu'on connaît mieux.
Donc là, un mammouth tout nu. J'aime bien un mammouth de...
Non, il ne faut pas retenir.
Non, j'ai rien dit.
C'est le mammouth de Durfort.
Il est magnifique. Alors, combien d'années a-t-il fallu pour le sortir? Parce que ça se fait très avec méthode.
Alors, c'est surtout qu'il a été découvert en 1869, et puis qu'après, en 1870, il y a eu la guerre
de Prusse,
voilà. Et du coup, il y a eu ça a été compliqué. Puis il a été trouvé sur un terrain privé. Du coup, le propriétaire aussi a réfléchi avant de pouvoir donner accès. Et puis après, il y a eu différentes personnes qui ont voulu l'acquérir. Finalement, c'est le Muséum de Paris qui a eu le dernier mot. Et en fait, nous, le Muséum de Nîmes n'existait pas encore à cette époque-ci. Il faut se dire qu'il a été ouvert en 1893 au public. Et du coup, avec la découverte en 1869, c'était impossible.
C'était un peu tôt.
C'était prématuré.
Il faut des années pour... le sortir, pour étudier toutes les pièces.
Après, il y avait 33 caisses qui sont parties à Paris. Donc, Paul Casalis de Fondousse a mis tous ces éléments dans des caisses bien fermées pour les envoyer par train à Paris. Mais donc, il faut imaginer. Ouais. Et après, à Paris, ils l'ont exposé dans un petit cabinet au Jardin des Plantes. Mais ensuite, il y a eu la construction de la galerie de paléontologie en 1898. Mmh. Et donc, ça a été un des clous de cette galerie.
C'est vrai que cette galerie au Jardin des Plantes,
elle est formidable. Quand on arrive là, en bord de Seine, là,
le Jardin des Plantes, c'est vrai que c'est une merveille pour son jardin et puis pour cette galerie paléontologique. Il y a le zoo à côté. Alors, on sait que le zoo, c'est très contesté actuellement, tout de même une mine de renseignements.
Et puis c'était un moment. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça a moins de... c'est un moment où les gens n'avaient pas justement la possibilité de voir soit de voyager, soit de voir des reportages qui pouvaient parler de toute cette
faune. Donc c'était l'occasion.
C'était l'occasion de la connaître. Et aujourd'hui, on se dit qu'il faut plutôt la protéger. Donc il faut protéger les milieux dans le monde entier pour pouvoir protéger ces espèces, protéger et pouvoir les réintroduire.
Ouais. C'est pour ça que c'est l'époque de ces expositions universelles. Et c'est vrai que celle de 1900, elle a été assez extraordinaire. Je reviens de Paris, justement, où j'ai vu l'exposition Mucha, et il y a une très, très belle rétrospective. Maintenant, par les vidéos, on fait des choses extraordinaires avec tous les palais différents pays. Mmh. Et il y a bien sûr aussi ces zoos humains, quand on parle des expositions universelles,
le
zoo de Vincennes. Comme vous disiez dans l'émission sur Louis Pasteur, il faut retirer certains mots, certains mais on ne peut pas les nier non plus.
Et puis la science justement permet de progresser et puis permet de casser tous ces codes qui n'avaient pas lieu d'être et qui étaient il y a une seule espèce humaine donc les zoos humains et puis les zoos tout court
c'est très très contestable. Mais là on ne va pas polémiquer, on va parler de cette star gardoise, de ce mammouth de Durfort. C'est vrai, quand on le voit au milieu des autres mammouths, c'est un géant. Je crois qu'il fait 9 mètres de haut.
Alors, il peut faire jusqu'à 5 mètres de haut au garrot. Celui-ci fait 4 mètres 20 dans mon souvenir. Et on avait fait justement dans notre exposition au garrot mammouth une réplique en fait sur un mur de cette légende. Pouvaient se mesurer à côté du mammouth de Durfort. Et c'est vrai que ça donne... Et aller justement à Paris, au Muséum de Paris aussi, pour vous mettre au pied du mammouth et voir la différence.
C'est vrai qu'on était frustrés quand il n'était plus là, puisqu'il est vieux, ce mammouth, dans l'exposition. Et il était en danger, parce que c'est vrai que maintenir les pièces de tout ce squelette, c'est...
Et puis, justement, quand on le déterre, après, il faut protéger, enfin, il peut se désagréger, donc il y a tout un protocole à avoir que les gens du 19e n'avaient pas forcément, et donc là, il faut pouvoir le réparer.
Quand est-ce qu'on s'est aperçu qu'il était en danger ? Je parle dans l'exposition.
Oh, bah, ça fait quelques années, mais justement, le muséum a bien réagi, le muséum de Paris, il a même fait appel à une donation nationale, en fait. Mmh. Et donc, les gens ont pu participer à la rénovation. Et ça a très bien fonctionné. Donc, c'est important de voir que les gens aussi tiennent au patrimoine scientifique. Sûr. Et puis,
sur toutes les petites vidéos sur les réseaux sociaux, et on parlait de Céline Collin, je crois.
Cécile Collin.
Cécile Collin qui a vraiment porté projet.
On l'a reçue au muséum. Oui. Elle a fait le même DEA que j'ai fait à Paris, justement. Donc, je la côtoyais à Paris quand on était jeune. Et donc, oui, il l'a retrouvée ici, à la tête de cette équipe. Elle a géré tout ce qui était archives, tout ce qui était cohésion là, de l'équipe autour de cette... Et c'est... Oui. De voir que ça peut porter à la fois le public, à la fois les chercheurs, qu'il peut y avoir cette communion. Ouais. Sauver du patrimoine, c'est
une communion, j'aime bien ce mot. Et puis, bon, ne pas oublier non plus qu'il y a à côté ce musée... Ce nouveau musée, je ne sais plus comment...
La Grande Galerie de l'Évolution.
La Grande Galerie de l'Évolution, j'ai oublié le nom.
Parce que là
pardon.
Aussi, c'était une galerie qui existait, qui était préexistante, mais qui a été rénovée, oui, dans les années 1995-97.
Ouais. Et c'est vrai que ça a eu beaucoup d'écho.
Ça a redoré le blason, je dirais, des muséums de France. Ça a permis de moderniser.
Mais c'est bien de voir les deux, je veux dire, celle du 19e siècle et puis celle de la fin du 20e siècle, voir que ça avait évolué. Puis je pense qu'il y a un renouveau justement pour la connaissance de notre monde qui est en péril. Et même s'il n'y a pas de lien, vous avez choisi Balavoine, tous les cris, les SOS. Alors, est-ce que c'est pour la planète ? Non.
Oui, on va dire que c'est un appel au secours pour la planète. Oui. Et on a besoin.
Que vous aimez Balavoine.
Que j'aime aussi Balavoine, bien sûr.
Comme un fou va je s'écrit avec de l'air pour te dire que je me sens seule. Je dessine à l'encre vide un désert et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent comme des lianes nouées de tresses sans comprendre la détresse. Quand tant de drames nous oppressent et les larmes nouées de stress étouffent un peu plus les cris d'amour de ceux qui sont dans la faiblesse et dans un dernier espoir disparaissent. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit.
Alors sur Radio Alliance Plus, nous avons parlé du mammouth de Durfort. Il faut l'appeler comme ça. Hein, c'est un Cévenol, ce mammouth. C'est un,
oui,
un
c'est
puissant. Hein.
Mammouth, du Gard, le mammouth régional d'étape. Là, et du coup, non, il faut profiter de voir que le Muséum de Nîmes, justement, reflète bien le fait qu'on a fait des découvertes incroyables dans le Gard. D'où la présence de ce muséum et de voir que les milieux qui sont présents dans le Gard, on a plus d'une dizaine de milieux différents aujourd'hui, mais par le passé, ça a aussi évolué, évidemment. Et donc, c'est l'occasion de trouver que ce soit des traces des hominidés avec la préhistoire ou que ce soit des traces d'animaux.
Alors, comment vous indiquez à nos auditeurs comment visiter, en fait, votre muséum ? Enfin, je dis votre muséum, vous êtes la directrice depuis Des décennies.
Presque. Oui. L'année prochaine, ça fera 2 décennies.
Depuis 2004. Je ne peux pas vous le dire, excusez-moi. Comment le visiter ?
Alors, en fait, justement, le parcours actuel reprend l'histoire du monde. C'est-à-dire qu'on commence par le cloître avec des photos de notre médiateur du planétarium qui a pris des photos donc, de l'espace. Et donc là, on a toute l'histoire de l'espace, de la création de l'univers. Et ensuite, on va s'orienter vers la galerie de géologie qui va nous raconter l'histoire de la Terre. Donc, 4,5 milliards d'histoire. Et donc, on a la chance d'avoir recruté un géologue, là, depuis le mois de février.
Mais j'espère que nous l'aurons à notre micro.
Mais j'espère aussi. Je vais vous l'envoyer le plus vite possible.
Très vite.
Et du coup, ce géologue est en train de remanier cette galerie qui avait été installée au moment des 50 ans du premier pas de l'homme sur la Lune, en fait, voilà.
69, j'avais... Donc ça fait... C'est 69.
C'était donc en 2019, on avait ouvert cette galerie et, pour les 50 ans. Et du coup, ça permettait de raconter l'histoire de la Terre. Et aujourd'hui, avec ce géologue, on va pouvoir sortir différents échantillons, aller plus au fond des choses. Et du coup, ça va permettre de connaître l'histoire de la Terre à partir des échantillons du Gard. Et c'est ça qui est très précieux aussi.
On part toujours en fait du local pour aller vers l'universel. C'est vrai que là, les photos de cet espace, le cloître est en friche et je trouve ça magnifique, moi.
Alors oui, c'est une friche organisée, on va dire. C'est-à-dire que c'est une prairie avec beaucoup de plantes mellifères. Parce qu'en fait, depuis 2 ans, on accueille des ruches au-dessus du toit du musée. Et en fait, ça permet aux abeilles qui sortent d'hibernation, qui sont au mois de mars, là, d'avoir les premières fleurs. Et puis, on s'est aperçu que ça faisait revenir pas mal d'insectes au sein du muséum. Et puis ensuite, les oiseaux qui suivent. Enfin, c'est tout un cycle comme ça et c'est très vertueux. Et on peut voir ça dans d'autres grandes villes comme à Bordeaux. Il y a de plus en plus d'espaces comme ça qui sont laissés à la nature, en fait, à la nature en ville. Et je pense qu'on peut très bien cohabiter. Et là, c'est dans un muséum, en fait, on fait des inventaires, nous, régulièrement, avec la population aussi qui vient voir,
Et donc, mais on peut rentrer dans le...
Alors, il y a à certains moments, surtout pendant les événementiels, en fait, donc, que ce soit pour les journées du patrimoine, les journées de l'archéologie, la fête de la science.
Parce que c'est frustrant de rester à l'extérieur. On a tellement été dans ce cloître pour des concerts.
Oui. Mais je pense que ça va être de plus en plus possible de le faire. Donc là, on a installé des panneaux aussi sur les vitres à l'extérieur pour que les gens comprennent cette démarche.
Donc, il y a toujours ce côté muséum, c'est-à-dire planète. Et puis l'évolution, puisque vous dites qu'il y a un retour, en fait, de ces... Moi, je me souviens de concerts où on était tellement gênés par les martinets qui criaient.
Ah oui, ça, parce qu'il faut choisir ses horaires. C'est sûr que les martinets ont des horaires. Et donc, on a la chance d'accueillir 400 martinets par an. Donc, c'est aussi une espèce protégée, des oiseaux qui passent leur temps en vol. C'est pour ça qu'ils ont des pattes très, très courtes et qui font des migrations de plus de 8000 km vers l'Afrique. Entre juillet et avril, on ne les voit pas du tout, donc ils ne sont pas du tout gênants. Et ensuite, ils viennent nicher au muséum. Donc là, ça fait plus de 100 ans que des personnes les ont étudiés. Donc là, ça fait aussi une très belle étude sur ce martinet. On poursuit d'ailleurs aujourd'hui. Là, un des animateurs du muséum relevait les nids occupés ou pas et avec combien de poussins est arrivé. Donc c'est un lieu de recherche aussi pour cette espèce. Et...
Ah ben, en parlant des martinets qui gênaient entre guillemets les artistes, je ne pensais pas qu'il y avait toute cette réflexion, toute cette analyse. Et c'est en ça que vous appelez Muséum d'histoire naturelle.
Voilà, oui. Il faut imaginer des petites boîtes qui ont été placées à l'arrière des trous de la façade. Et donc les martinets rentrent par ces orifices. Mais ensuite, on peut ouvrir, compter le nombre d'œufs qui sont sur le nid, voir l'évolution des poussins. Et Donc oui, c'est bien étudié.
Alors vous disiez pour Louis Pasteur dans une autre émission, donc Air de Rien sur les expositions temporaires, que Louis Pasteur était un homme du vivant, était un savant du vivant. Et en vous écoutant, je me dis qu'un muséum, ça, c'est pas un lieu historique, coincé de laboratoire. C'est vraiment...
Non,
dedans.
En fait, on a une énorme base de données sur la diversité du vivant, en fait, parce que quand on voit nos collections, elles sont constituées d'ADN principalement, et du coup, il va y avoir des tas d'études qui vont pouvoir être menées dans les années futures. Donc, en fait, à la fois, on a une présentation qui peut être un peu surannée, un peu ancienne, mais on a aussi tout le côté recherche avec des chercheurs qui viennent nous solliciter. Je cite souvent l'esturgeon, par exemple, qui a été visité chez nous. C'est un esturgeon qui provenait du Rhône, en fait, qui a été pêché il y a une centaine d'années. Et donc, on a la chance d'avoir les étiquettes qui correspondent à tous nos échantillons. Et du coup, sur l'étiquette, on pouvait savoir à quel endroit du Rhône il avait été pêché, à quelle date, par qui. Et donc, le chercheur a fait un prélèvement pour retrouver l'espèce qui était vraiment concernée, l'esturgeon, et pouvoir la réintroduire dans le Rhône, comme ça a été fait dans la Garonne. Mmh. Donc, en fait, on a tout ce potentiel qui est dans nos collections, pour la sauvegarde du vivant futur. Et...
Alors, vous dites ces chercheurs parce que vous ne pouvez pas être spécialiste de tout. Rappelez-nous un peu les études pour être directrice d'un muséum d'histoire naturelle.
Alors, donc j'ai fait de la biologie au départ, puis ensuite j'ai fait de la géographie environnementale et ensuite un premier master pour la valorisation du patrimoine naturel et culturel et un deuxième master au Muséum de Paris, justement, en muséologie des sciences. Et donc, à la fois, c'est un aspect très généraliste, parce que justement, dans une collection comme ça, où on va des coquillages, à la botanique, voilà, il faut avoir un œil un peu sur tout. J'avais fait un peu de préhistoire aussi. Et du coup, ça permet d'avoir un regard curieux sur tout, justement, ce qui peut se croiser entre différentes disciplines, les sujets d'actualité qui peuvent être illustrés par des objets anciens, enfin...
Oui, en fait, vous donnez dans votre musée, vous donnez des orientations, déjà par l'aménagement de vos collections permanentes et puis par ces expositions temporaires qui sont, en général, il y en a deux par an à peu près.
Alors, on en fait une dans la Galerie Jules Salle, en général, de mai à novembre. Et puis après, suivant les manifestations qui peuvent avoir lieu ou les événementiels, on va créer d'autres expositions.
Donc, ce travail, parce que quand on vous écoute dans vos études, ça peut sembler très technique, mais il y a un côté très administratif, c'était... très archiviste.
Oui, il y a de la recherche dans les collections. C'est un travail d'équipe, on a la chance d'avoir une équipe. C'est aussi le fait d'associer à la fois, comme je vous disais, un côté scientifique, donc il faut maîtriser certaines sciences, mais aussi savoir les illustrer, connaître les questions du public, les questions que le public peut se poser actuellement sur les sciences, de faire ce mélange à la fois historique et...
Donc là, il y a un nouveau... vous avez un nouvel adjoint en géologie, donc ça vous...
Alors, ça permet de
vous décharge, justement. Alors, ou c'était pas votre spécialité, vraiment?
Alors, c'était pas ma spécialité à la base. Et on a une collection géologique très importante. Donc, c'était l'occasion, justement, de
Oui, il y a cette affiche des mystères géologiques.
Voilà. Ma première exposition, c'était quand même sur Émilien Dumas, donc notre géologue du Gard, parce que c'était son bicentenaire et que j'ai trouvé que ce personnage vraiment très attachant et très intéressant. Et donc, je l'avais mise en place. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Geoffrey Musial, on va pouvoir aller plus au fond des choses et sur des terrains et puis explorer tout ce qui est... on a une collection aussi générale, qui n'est pas la collection Émilien Dumas, qui a aussi des milliers d'échantillons. Et donc là, d'en faire l'inventaire et puis de pouvoir l'exploiter ensuite pour le public.
En fait, il y a ce qu'on voit dans le musée, puis il y a tout ce qu'on ne voit pas.
Oui, en général, on dit qu'il n'y a que 10% des réserves qui sont exposées. Donc, ça laisse beaucoup de choses en réserve. Donc, à l'occasion des expositions temporaires, on fait justement tourner les collections. On va utiliser des objets en réserve. Mais c'est vrai que c'est toujours frustrant de ne pas pouvoir montrer plus au public.
Ouais. Dans l'émission Air de Rien sur les 30 ans du Carré d'Art, j'avais rappelé votre enthousiasme sur ce galet
ancré. C'est vrai. Donc ça, c'est des petites pépites qu'on a en réserve et qu'il faut pouvoir montrer.
Et puis les vitrines pour l'exposition Louis Pasteur, les vitrines de Séguier que vous pouvez réutiliser.
Voilà, ces tables qu'on a réutilisées du 19e siècle en associant des cloches en plexiglas ou des vitrines. Pouvoir remettre dans le contexte.
Donc, si je comprends bien, vous ne chômez pas dans ce musée. Il y a une équipe, vous êtes combien?
On est à peu près une quinzaine, et donc ça se répartit en fonction des... On dit que dans un muséum, il y a trois missions. Il y a une mission de conservation des collections. Mmh. Donc là, on va avoir des techniciens, une régisseuse qui vont s'occuper des collections, de leur conservation. On a une mission de recherche aussi. Donc là, on va avoir tout un accueil des chercheurs aussi qui viennent faire des...
Ils sont nombreux à venir?
Alors, ils sont à peu près une vingtaine par an à nous poser des questions et à venir et à faire des articles ensuite sur nos collections. Et puis, il y a une mission de diffusion. Et c'est ça qui nous prend beaucoup de temps. C'est-à-dire tout ce qui est atelier pédagogique, tout ce qui est exposition temporaire, événementiel à mettre en place.
Mais qui vous fait connaître. Enfin, qui font connaître le musée.
C'est la partie importante aussi, parce que justement, on n'est pas dans nos réserves enfermées. On est là pour diffuser et former les gens aux sciences. Ouais.
Mais c'est ce qu'on disait aussi, c'est que bon, les muséums, ça a peut-être un côté ancien, suranné, mais c'est une ouverture, c'est une curiosité, et vous vous ennuyez jamais.
Non. Et puis, oui, on ne s'ennuie pas. Et puis, on voit que c'est tellement en adéquation avec les sujets d'actualité qui touchent à l'environnement, qui touchent au changement climatique, qui touchent à la santé. Donc, il y a toujours un lien entre animaux et vivants et puis le musée. Ouais.
Mais merci Adeline Rouillet d'être venue nous parler longuement dans deux émissions, Un air de rien et Une itinérance. L'actualité, c'est bien sûr le mammouth de Dirfort. Et vous en êtes très fière de... Vous êtes sévenole d'origine?
Alors, il faudrait que je cherche un peu loin, mais j'ai des origines, nîmoises, sévenoles, ardéchoises. Ouais.
Donc, vous avez le droit de dire que vous aimez votre mammouth de Dirfort.
Oui. Bien sûr.
Merci à vous Adeline, merci.
Merci, au revoir.
Alliance Plus.